Depuis 2001, L'Envolée, c'est une émission et un journal pour en finir avec toutes les prisons, faites par d'anciens prisonniers et prisonnières, et des proches pour relayer la parole des enfermés. L'abonnement au journal est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières qui en font la demande. L'émission de radio est diffusée le vendredi soir de 19h à 20h30 sur FPP 106.3 en région parisienne ou sur rfpp.net et disponible ensuite sur toutes les plateformes de podcast. L'épidémie de coronavirus a de lourdes conséquences en prison. C'est pourquoi, face à la gravité de la situation, nous avons décidé de produire un bulletin d'information quotidien de 15 minutes que vous pouvez écouter chaque soir de la semaine à 19h sur les ondes de FPP et sur l'envolée.net, en plus de l'émission du vendredi qui est maintenue. Nous demandons à toutes les radios locales de diffuser largement ce bulletin. Il est plus que jamais nécessaire de ne pas laisser les prisonniers et les prisonnières seuls face à l'arbitraire de l'administration et de faire entendre leur voix. Nous relayerons les actions collectives et individuelles dont vous nous informerez, ainsi que des témoignages directs sur la situation à l'intérieur. Tenez-nous au courant par tous les moyens à votre disposition. Nous diffuserons les messages vocaux et les textos de prisonniers et de prisonnières que vous nous enverrez. Nous lirons également les messages que les proches privés de parloir nous demanderont de passer. Notre numéro de téléphone, 07 52 40 22 48. Pour écrire, Radio FPP, L'Envolée, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Ou encore à l'envolée.net et sur Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat.
Dans une putain de cellule au premier étage! Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Se mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Évidemment, c'est encore plus horrible quand ils se la donnent et qu'ils vont bastonner comme ça arrive dans les mitards où tout est secret, ils font ce qu'ils veulent, quoi, tout est opaque.
C'est tellement fermé, c'est tellement isolé de tout. Ouais.
Mais n'empêche que même un suicide au mitard, ça reste une mort complètement anormale. Je veux dire, tu rentres au mitard vivant, tu dois en sortir vivant, il n'y a pas d'histoire. Ça, c'est un endroit où t'es complètement désarmé, t'as plus rien. Plus rien. Ils allument quand ils veulent allumer, ils éteignent quand ils veulent éteindre. T'as un bouquin s'ils le veulent bien. Tu vois le jour, si on peut appeler ça du jour.
Une heure
par jour. T'as du feu s'ils veulent bien t'en donner. Enfin, et puis ils viennent te faire chier quand ils veulent. T'es complètement isolé du reste de la détention. Voilà. Donc, et ça peut durer 3 mois. Avant c'était 45 jours, là c'est 3 mois. Mais c'est énorme. Donc évidemment que c'est un endroit particulièrement pénible et que quelqu'un qui est un peu plus fragile qu'un autre, il y a des gens qui résistent très bien, mais quelqu'un un peu plus fragile qu'un autre, ouais, il peut craquer. Mais ça c'est à ceux qui le mettent là de. Enfin, il paraît que les docteurs sont obligés de passer tous les jours.
Mais paraît-il alors hein,
parce que... mais ils passent, ils font comme ça, ils passent. Il y a 2 grilles, alors ils ouvrent la première et ça va. Non, ok, salut, à demain. Comme ça, ils continuent leur ronde.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous venez d'entendre un extrait d'Olive dans une émission du 6 juillet 2018 de L'Envolée qui parlait des suicides au mitard et qui terminait par mettre un petit taquet aux médecins. C'est le vrai clin d'œil du jour parce qu'aujourd'hui, on en a particulièrement contre cette prison qui ne soigne pas et qui tue obstinément.
Vendredi, par exemple, 8 mai dernier, on a eu des nouvelles par des prisonniers de Villeneuve-les-Maglones nous informant qu'un de leurs co-prisonniers était tombé dans sa cellule vers 10h du matin seul. Il tape, les autres prisonniers tapent, appellent les matons, il faut attendre 14h30 pour qu'ils viennent, puis il ne se passe plus rien à nouveau. Tout le monde s'inquiète en prison. Une infirmière le verra, ce prisonnier, le samedi, le lendemain donc, et il est censé voir un médecin lundi ou mardi. On attend des nouvelles de ce qui s'est passé au début de semaine. En attendant, qui pourra dire que la prison soigne ? Courage à eux tous à l'intérieur de Villeneuve-les-Maguelones.
Et très récemment, le 6 mai, on a appris une terrible histoire de ce qui semble être une vengeance. La mort d'un prisonnier à l'île Maurice. Il serait mort pendant un transfert entre la prison de Beaubassin et la prison de La Bastille. Et il a été trouvé mort à son arrivée avec le corps recouvert de blessures. La seule chose qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui, c'est que le véhicule qui a fait le transfert a été placé sous scellé. Voilà.
Et encore une fois, la prison tue. Une autre nouvelle aussi, on sait qu'un feu s'est déclenché à la prison QHS de Condé-sur-Sarthe ces jours-ci. On n'en sait pas beaucoup plus. Si vous en avez, donnez-nous-en. On attend des infos de l'intérieur. Vous pouvez nous contacter. On rappelle le numéro 07 52 40 22 48. Aujourd'hui, on fait une émission spéciale sur Nantes avant de partir en Italie en fin d'émission. Nantes, dont on reçoit beaucoup de nouvelles de la part de prisonniers qui nous racontent comment fonctionne cette prison, notamment par le biais d'une analyse des circulaires qui sont pondues par la direction et affichées, auxquelles les prisonniers répondent. Donc on va vous lire en fait ces circulaires et la réponse qu'en font les prisonniers systématiquement. Donc la direction. Sur les mesures d'hygiène au sein des établissements, effectuer un nettoyage renforcé, aération régulière des locaux, fournir gratuitement une quantité suffisante de savon et de produits d'entretien, assurer dès que possible lavage des draps, nettoyage du linge.
Les prisonniers répondent, le linge est lavé une fois toutes les deux semaines gratuitement, on a un kit de nettoyage une fois par mois qui contient de l'eau de Javel, un flacon de liquide vaisselle, deux éponges, un flacon de détergent multi-usage, mais on avait déjà ce kit avant le confinement, donc rien n'a changé. C'est l'oxy qui nettoie, mais les surveillants ne vérifient pas, du coup si c'est pas fait, c'est pas fait.
La direction sur l'accès aux douches, constitution de groupes identiques pour l'accès aux douches collectives, nettoyage renforcé après le passage de chaque groupe, pas de diminution du nombre de douches, au minimum 3 comme le prévoit le CPP.
Les prisonniers répondent, pour les douches, n'importe qui y va, n'importe comment. Normalement, les gars suspectés d'avoir le corona devraient aller aux douches à midi quand nous on est enfermés. Mais ça ne sert à rien puisque de toute façon, personne ne nettoie les douches. Une fois, je me suis retrouvée aux douches avec un gars confiné pour suspicion du coronavirus alors qu'il était 17h30. Et c'est les surveillants qui l'ont envoyé sans vérifier s'il y avait quelqu'un. Du coup, quand je vais à la douche, je prends mon flacon de Javel et je nettoie moi-même. Le nettoyage est fait une fois par jour au passage de l'oxy, mais c'est le même mode de nettoyage qu'avant le confinement.
La direction sur les mesures d'hygiène dans les cuisines, pour la distribution des repas, port des équipements individuels, lavage des mains.
Les prisonniers. Pareil qu'avant le confinement, les oxy ont des gants, une charlotte, un tablier jetable, mais pas de masque. Sur les 10 surveillants qui suivent l'oxy pendant la distribution des repas, 3 mettent un masque, 7 ne les mettent pas.
La direction. Sur les déplacements au sein des établissements, limitation des déplacements, les seuls qui doivent être maintenus par leur avocat, promenade, activité de sport en plein air, douche collective, unité sanitaire, groupe identique d'un jour à l'autre.
Les prisonniers, on ne descend pas en groupe identique d'un jour à l'autre. Les promenades, c'est bâtiment par bâtiment, mais ça n'a rien à voir avec le confinement. Au début, les promenades, c'était comme avant, puis ils ont fait ça par rapport aux parachutes. Comme les surveillants récupéraient les paras, un mouvement de foule s'est créé autour des surveillants. Ils ont pris peur, et depuis, c'est promenade bâtiment par bâtiment, une heure de promenade le matin, une l'après-midi.
Sur les entrées en détention, personnes écrouées sont placées en quatorzaine. Et sur le port des masques, port de masque obligatoire à compter du 31 mars pour les personnels en contact direct et prolongé avec les personnes détenues.
Le prisonnier. Je vais être gentil, un quart du personnel porte un masque, c'est au bon vouloir des surveillants. Ceux qui portent un masque le font plus pour se protéger eux que pour nous protéger nous d'une possible contagion.
Sur la conduite à tenir en cas de suspicion, la direction dit définition d'un protocole de partage de responsabilité entre personnel de surveillance et personnel de santé. Isolement des personnes présentant des symptômes, cellules individuelles, quartier spécifique, mise en quatorzaine et port d'un masque lors des déplacements, et mise en quatorzaine de toutes les personnes qui ont eu un contact, vigilance renforcée pour ces personnes.
Les prisonniers, la personne suspectée est isolée, mais pas dans un bâtiment spécifique, elle est isolée dans sa cellule, et du coup elle se retrouve à prendre la douche avec nous. Pas de mise en quatorzaine des personnes qui ont été en contact, pas de vigilance renforcée, des gars aux mêmes étages sont âgés, d'autres ont du diabète et n'ont rien fait de particulier pour eux.
Sur les fouilles, privilégiez les mesures alternatives, dit la direction, détection par portique, fouille que de manière exceptionnelle, effectuée par personnel doté de masques et protection de gants à usage unique.
Les prisonniers, il y a eu quelques fouilles, c'est le même régime qu'avant le confinement, ils enferment tout le monde dans leur cellule à 1h dans la matinée ou dans l'après-midi et ils en profitent pour fouiller la cellule d'un gars. Pour les masques, je ne sais pas, mais l'autre jour, un collègue a eu une fouille, il a retrouvé les gants du surveillant dans la poubelle de sa cellule. Les premières semaines, il y avait peut-être moins de fouilles, mais maintenant, c'est reparti comme avant le confinement.
Au 6 mai, précise encore des contacts à l'intérieur, c'est la même situation. Ils ont juste distribué, victoire, un savon de Marseille en plus.
Merci Madame Manot.
Merci Madame Manot Benazeraf, directrice du CD de Nantes. Alors, en parlant de Nantes, hein, du coup, merci hein, à tous ceux qui nous font parvenir ces informations de l'intérieur et qui prennent la peine de faire ça. Merci aussi de continuer à être très attentif au sort qui est fait à Jean-Christophe Merlet, qui
est prisonnier. Et à continuer de nous en informer.
Parce que contrairement à ce que les directrices Madame Pamar et Madame Manot Benazeraf, qui figurez-vous qu'il y a des yeux et des oreilles qui traînent à l'intérieur et leur travail et le travail qu'elles mènent dans la direction de cette prison est suivi de très près, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette prison.
Depuis le savon de Marseille jusqu'à l'intimité des cellules.
Exactement. Alors sur le plan judiciaire, on fait un petit point sur ce qui se passe pour Jean-Christophe. Il est passé en commission donc mercredi dernier. On renvoie aux différentes émissions de fin de semaine dernière pour savoir plus précisément l'histoire de Jean-Christophe Merlet. Mais on peut dire qu'une longue lettre des amis et des proches de Jean-Christophe a été publiée sur le blog Mediapart de l'Envolée et sur notre site, envoyée à de très nombreux journalistes et organisations qui reviennent sur l'ensemble de cette histoire et de pourquoi il est en prison. Rappelons donc juste ce qui s'est passé. C'est mercredi dernier. Il passait dans une commission de suspension de peine.
La JAP a décidé de suivre l'avis du parquet, c'est-à-dire de redemander toutes les expertises qu'il avait déjà faites et qu'il a déjà en sa possession, qui sont soit encore valables, soit qui décrivaient des états dégénératifs, donc il n'y a aucune raison que ça se soit arrangé. Donc cette décision est assez incompréhensible. La crainte de ses amis, de ses proches, ce serait plutôt qu'on veuille le placer en UHSI. Et là, du coup, ce serait quand même pas la même chose pour lui.
Parce que les UHSI, c'est donc les unités hospitalières sécurisées interrégionales qui sont gérées en mix par l'AP et qui sont créées il y a 20 ans pour une continuité des soins dans les hospitalisations de plus de 48 heures, soi-disant. Mais on sait aussi que de ces endroits-là, les informations sont partagées entre personnel soignant et personnel de l'AP.
Donc le secret médical qui n'est déjà pas top en prison, là, autant dire qu'on s'assoit dessus.
Il s'assoit dessus différemment. Et surtout, en revanche, que les informations que voudraient dénoncer les prisonniers et prisonniers de ces unités, elles sortent très très peu. Il y a très peu de nouvelles qui sortent de ces endroits-là. C'est des endroits où les gens sont isolés et gavés de médicaments à la moindre question psy et on essaye d'écraser avec la camisole chimique les gens. Donc ce serait pas du tout une bonne nouvelle et c'est pas du tout ce que souhaite Jean-Christophe, ni ce que souhaitent les amis de Jean-Christophe et les gens qui le soutiennent à l'extérieur. Donc on le dit très clairement aujourd'hui, ce serait pris encore une fois comme une mesure d'isolement supplémentaire pour le faire taire. On n'est pas dupes. Voilà. On reviendra là-dessus dans l'émission de vendredi. Aujourd'hui, pour terminer cette émission, deux sons qui viennent d'une camarade qui participe à des luttes de soutien de proches et de prisonniers en Italie. Elle fait un résumé de la situation dans les prisons italiennes, où, rappelons-le, les prisons s'étaient embrasées 10 jours avant la France, car le choix du confinement strict avec la suppression des parloirs avait été aussi imposé là-bas. Elle commence par la lecture d'une lettre collective du quartier de haute sécurité de la prison de Bologne du 24 avril, puis nous fait un retour général sur la situation ailleurs en Italie. Bonne écoute.
Une lettre des prisonniers de la Dorza à Bologne. Témoignage depuis la prison. Situation sanitaire Covid-19. Quartier de haute sécurité, prison de la Dorza, Bologne. Nous, détenus du quartier de haute sécurité, rayon 3A, en tant que témoin direct, voulons vous faire connaître la situation sanitaire actuelle concernant le Covid-19 et la vie carcérale. On déclare ce qui suit. Il est bien connu le bilan de la pandémie à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire de Bologne, avec le décès d'un détenu AS3B, plus de 20 détenus, dont 5 à régime de haute sécurité, 16 infirmières et 2 surveillants, tous testés positifs au coronavirus, et encore 5 détenus, toujours en haute sécurité, positifs au virus sur les 90 qui ont été transférés dans d'autres établissements pénitentiaires. Mais il y a aussi une autre vérité, un bilan qui n'est pas connu à l'extérieur. C'est-à-dire le fait que sur les 20 détenus qui restent dans le quartier de haute sécurité, après avoir été mis en quarantaine et avoir été testés une deuxième fois, 10 ont été trouvés positifs au virus et mis à l'isolement, tandis que nous, les 10 qui n'avons pas contracté le virus, on a été transférés dans cette section, 5, rayon 1, pour une énième quarantaine et pour être testé une troisième fois. On voudrait aussi vous informer sur la vie carcérale qui est insupportable. Enfermé H24 dans une cellule de 3 pour 2,5 mètres carrés, ce qui ne respecte pas la norme, sans pouvoir descendre en promenade. On n'a pas de parloir, pour des raisons de sécurité, mais nous n'avons pas accès aux appels vidéo hebdomadaires quand on est en quarantaine. Par contre, on peut accéder aux douches et aux téléphones de la section, qui sont en commun, ce qui nous expose à un danger, nous et les autres. Le risque de la pandémie due au Covid-19 en prison, dans un régime de haute sécurité et dans ces conditions, est très élevé. Nous ne pouvons qu'espérer. Bologne, le 24 avril 2020. Alors, pour faire une petite synthèse de l'évolution de la situation dans les prisons italiennes, au 4 mai, rien n'a bougé à l'état actuel. Les parloirs sont toujours interdits. Dans plusieurs prisons, on ne peut pas amener d'affaires. Il n'y a pas d'activité comme en France, en gros. Et à cause du surpeuplement, qui a entre 3 et 7 personnes par cellule, c'est impossible de respecter les distances de sécurité. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gants. Et le nombre de personnes malades a augmenté assez rapidement. En fait, si le 6 avril, on comptait 37 personnes testées positives au virus, le 28 avril, c'est-à-dire moins d'un mois après, ils étaient 150 sur les 53 345 détenus des 190 prisons italiennes. Il faut savoir que ce chiffre de 53 345 000, c'est pour une capacité maximale de 46 731 places. Donc en fait, il y a un surpeuplement de 10 000 personnes. Parmi ces personnes, il y a 13 détenus qui ont été hospitalisés. Et on n'a aucune donnée sur le nombre des détenus qui ont été testés. Donc on ne sait pas en gros combien de tests il y a eu. Et parmi les matons et les matones, les personnes testées positives au Covid sont au moins 300. Le gouvernement ne semble pas prendre des mesures drastiques. Au contraire, le dernier décret avril prévoit les mêmes mesures que le précédent, qui avait été fait au mois de mars, et qui avait permis quelques milliers d'assignations à résidence et un petit nombre de libérations, une goutte d'eau dans la mer de la surpopulation carcérale. Ceux qui pourraient être mis sous bracelet électronique n'ont pas accès à cette mesure alternative, faute des infrastructures techniques nécessaires. Et le Premier ministre a précisé qu'il fallait isoler les cas symptomatiques et éviter les entrées et sorties des prisons, en privilégiant plutôt l'assignation à résidence. Cependant, les administrations pénitentiaires n'arrêtent pas de transférer des prisonniers d'un établissement à l'autre. Les parloirs ont été remplacés par les appels vidéo et on parle maintenant de pérenniser cette modalité même après la pandémie. Entre-temps, la Commission européenne des droits de l'homme a demandé des explications au gouvernement italien au sujet de la gestion de l'épidémie en prison, et notamment par rapport à la situation de la prison des Vallette à Turin, qui est un véritable foyer des contagions. En fait, un prisonnier a été testé positif au Covid-19 et il y est maintenu en détention malgré son état de santé incompatible avec l'emprisonnement. Dans la prison de Pesaro, dans les Marques, au centre de l'Italie, une grève de la faim est en cours depuis le vendredi 17 avril pour exiger l'application des mesures d'aménagement et des réductions de peine prévues pour vider les prisons. Dans la tôle d'Opera, à Milan, des prisonniers n'ont pas accès à la promenade, ils restent enfermés toute la journée et ils n'ont pas le droit de recevoir des affaires. Le nombre des personnes positives au virus augmente et ils reçoivent des masques seulement au moment de l'appel vidéo avec les familles et le reste du temps, ils sont obligés de fabriquer leurs propres masques avec des draps. À Rome, les proches des prisonniers ont essayé d'interpeller la ASL, l'agence sanitaire locale, responsable de l'accès aux soins dans les prisons d'Ale Bibbia et Regina Coeli, mais ces appels ont été ignorés par les directeurs de la structure. À Brindisi, dans les Pouilles, deux prisonniers ont essayé de s'évader. Malheureusement, ils ont été vus par les surveillants. À Alessandria, dans les Piémonts, les prisonniers ont agressé un maton et cassé les caméras de surveillance. Entre-temps, à Pescara, dans les Abruzzes, l'administration a décidé de créer une section ghetto pour toutes les prisonniers et prisonnières de la région malades du Covid-19. Depuis le début de la pandémie, on compte 7 personnes mortes du Covid-19, sans compter les 13 personnes mortes pour overdose pendant les révoltes début mars. Le 1er mai est morte un détenu de 54 ans de la prison de San Vittore, à Milan, qui avait contracté le virus à l'intérieur. Comme par hasard, 2 jours auparavant, le chef du département de l'administration pénitentiaire avait démissionné suite aux nombreuses critiques de mauvaise gestion de la période de la pandémie. Hier, dimanche 3 mai, pendant la visite du garde des Sceaux Bonafede à l'intérieur de la prison d'Ele Bibbia à Rome, les détenus ont manifesté leur rage et préoccupation pour la situation actuelle. À l'extérieur, la solidarité ne s'arrête pas. Le 8 avril dernier, à Naples, les proches des prisonniers et prisonnières ont appelé à se rassembler devant la prison de Poggioreale et ils ont bloqué la route pendant plusieurs heures. En début d'après-midi, ils ont décidé de bouger devant le tribunal. Les flics les ont chargés et ont arrêté 2 copines pour non-respect du confinement, 400 euros d'amende minimum, violence et résistance. Le 16 avril dernier, il y a eu plusieurs rassemblements en même temps devant des tôles à Rome, Bologne, Milan et des actions à Naples. À Rome, les copines ont été encerclées par les flics assez rapidement, menacées et identifiées. La tension est vite montée et une petite dizaine de personnes ont été amenées au poste. Certaines d'entre elles ont reçu une amende pour non-respect du confinement et sont poursuivies pour résistance aux forces de l'ordre et manifestations non autorisées. À Bologne, les copines ont réussi à parler avec des prisonniers de l'atoll della Dozza, où la situation est catastrophique, mais elles ont toutes eu des amendes pour non-respect du confinement. À Milan, les solidaires ont réussi à rejoindre la prison de San Vittore a Velo et à parler avec les personnes enfermées. Malgré la répression, notamment économique, par une pluie d'amendes à un moment où c'est assez compliqué de récolter de la thune, on essaie de maintenir l'attention sur la situation à l'intérieur des prisons et de continuer à faire circuler la voix des prisonniers et des prisonnières.
Et bien voilà, cette quotidienne touche à sa fin. On voudrait saluer tous les prisonniers et prisonnières de France. Force, courage et détermination. Et bien évidemment, il n'y a pas d'arrangement. Salut !